Émission L'Enjase de ton mercredi 10 juin. Vous avez été plusieurs et vraiment plusieurs, puis vous êtes en feu depuis quelques semaines. Merci d'interagir au 418-971-1021. Vous avez eu beaucoup de réactions sur la filière batterie en disant « ben voyons, ça n'a pas de sens ce que le gouvernement avait fait. » On le savait, puis on vient de tirer 750 millions dans le feu. Donc voilà, c'est fait, c'est dit, ce sera la première manchette. Et on a Frédéric Beauchemin aussi qui est en attente après les manchettes pour nous parler. C'est le porte-parole officiel de l'opposition officielle en économie.
Je veux pas aller trop loin, c'est ça, parce que, bon, justement, vu qu'on en discutait, mais qu'on va en discuter, mais tu sais, selon le rapport, là, il y a des aides financières qui totalisent 2,2 milliards de dollars qui ont été accordées à 11 projets sans analyse ni suivi suffisante des risques. Sur tout ce qui a été donné, ce qui est vraiment préoccupant, Jeff, c'est qu'il y a environ 700 millions de dollars qui ont été investis dans des entreprises aujourd'hui en faillite. Nordvolt, Lyon Électrique, Recyclage Lithium, Moteur Taiga. Sur les 11 projets examinés, 6 sont jugés très fragiles et seulement 2 sur 11 ne représentent pas de problème majeur. Le rapport qui dit que les aides financières ont été approuvées sans la recommandation obligatoire du comité d'investissement, c'est près de 1,9 milliard de dollars qui ont été accordés par décret gouvernemental. Aussi, fait que c'est sûr qu'on va vouloir approfondir ça un petit peu. Sinon, ce qui retient l'attention, le gouvernement de Christine Fréchette qui va relancer le programme de l'expérience québécoise pour une période de 2 ans. Aboli en 2025, le PEC permettait à certains étudiants étrangers et travailleurs temporaires d'obtenir plus rapidement leur résidence permanente. Pour son retour, avait été réclamé évidemment par plusieurs municipalités, organismes et groupes d'immigrants. On se rappelle que le maire, entre autres Bruno Marchand, était sorti haut et fort, était monté aux barricades à ce sujet-là. Le programme qui fonctionnera désormais en parallèle avec le PSTQ, tout en respectant les cibles d'immigration déjà fixées par Québec. Et j'ai envie de te parler de la Coupe du monde.
C'est demain 15h, premier match
officiellement
du Canada contre la Bosnie.
Demain, puis on a reçu un texto d'un auditeur un peu plus tôt à ce sujet-là, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans les médias européens, mais beaucoup moins ici, en Amérique du Nord.
Oui, mais l'histoire d'un arbitre puis un photographe.
Photographe, arbitre, il y a beaucoup d'encre qui coule par rapport à ça en ce moment. Là, je vous parle de l'arbitre somalien Omar Artan, qui promet qu'il sera au rendez-vous de la Coupe du monde de 2030, malgré son exclusion du tournoi qui débute demain. C'est qu'il a été refoulé, lui, à son arrivée à Miami. Il affirme avoir été interrogé pendant 11 heures avant d'être renvoyé vers la Turquie. Les autorités américaines qui évoquent des liens avec des personnes soupçonnées de terrorisme, ce qu'il conteste. De retour en Somalie, il a été accueilli en héros par une foule de partisans, évidemment. Donc, on a le bénéfice du doute, malgré ce qu'on peut penser actuellement de la gestion des frontières par les États-Unis. On peut pas prendre ça à la légère quand même quand il y a des mentions de possibles liens avec le terrorisme. Mais pour l'instant, c'est sûr que l'arbitre, lui, tient son bout, comme on dit. J'espère qu'on va, au niveau journalistique, continuer à investiguer davantage pour vraiment mettre la lumière sur ce dossier-là. Puis j'essaierai de vous revenir avec les détails concernant le photographe
entendre le point de vue de la FIFA, parce que j'imagine qu'on doit faire quand même une analyse des gens qu'on envoie arbitrer à la Coupe du monde du côté de la FIFA.
C'était pas supposé s'appeler la Coupe du monde. Je pense qu'on voulait modifier le nom pour United Cup. Là. Il y avait quelque chose avec Uni.
Ou la Coupe des Amériques. C'était tout ça quand c'était Canada-Mexique? Je sais pas.
Je me souviens... au moment où la CEUM est fragilisée là, actuellement. Fait que, t'sais, il y a quelque chose de très, très désuni, finalement, je trouve, dans ces nouvelles-là. Fait que, t'sais, c'est sûr que c'est ça. Oui, effectivement, c'était un bon call de la part de l'auditeur qui nous envoyait ça par texto. Puis je vais essayer de sortir l'histoire du photographe aussi.
Oui, on regarde ça, on suit ça pour vous. Évidemment, on va suivre tous les résultats au niveau de la Coupe du monde à chaque jour dans l'émission. On en jase. Vous rappelez, tant qu'à être dans le sport, que les Hurricanes de la Caroline l'ont emporté 5-3 hier contre les Golden Knights de Vegas. 2 buts pour le joueur de centre Jordan Staal. 20 ans entre ces deux finales de la Coupe Stanley. Il est maintenant rendu à 38 ans. Il réécrit l'histoire. 4e match de suite avec au moins un but en finale de la Coupe Stanley. Il y a seulement 3 joueurs qui ont réussi cet exploit. Le dernier, c'est en 1982, le Québécois Michael Bossy. Tout simplement exceptionnel ce qui arrive avec le capitaine des Hurricanes. C'est jeudi, le match numéro 5 de cette série. On va à l'instant discuter avec Frédéric Beauchemin, porte-parole en économie pour l'opposition officielle. Monsieur Beauchemin, comment allez-vous?
Ça va bien, vous autres, M. Fortin?
Ça va très bien. Monsieur Beauchemin, sans surprise, la vérificatrice générale du Québec qui confirme que la filière batterie a été un véritable fiasco. 750 millions de dollars tirés dans le feu par la CAQ. Quelles sont vos premières réactions?
Bien, c'est malheureusement quelque chose qu'on s'attendait parce qu'on le voyait bien. C'est un gouvernement de marins en cavale qui n'ont jamais été capables d'être responsables. On parle ici dans le rapport d'une approche qui a été peu planifiée, qui n'a pas eu de suivi rigoureux. Il y a eu des dossiers qui ont été autorisés sans la recommandation du comité d'investissement. Je veux dire, en entreprise privée, là, okay, tout ce beau monde-là, là, il aurait été mis à la porte. En entreprise privée, là, ce gouvernement-là aurait fait faillite. Puis là, malheureusement, on est pogné encore avec eux autres.
Ouais, là, ça, on parlait beaucoup de François Legault, Pierre Fitzgibbon. D'ailleurs, il n'y a aucun ministre clairement identifié dans le rapport. Moi, ça me chicote tout le temps qu'on soit obligé de faire des commissions d'enquête pour savoir vraiment à qui revient la responsabilité. Ouais. On l'a vu avec la commission Galland. Ouais. Va-t-il falloir faire une commission d'enquête sur la filière batterie?
Ben, je peux vous donner la réponse tout de suite, là. Ils sont tous responsables quand ils sont au Conseil des ministres parce qu'ils doivent approuver au Conseil des ministres tous ces investissements-là. Donc, ils sont tous coupables. Toute la gang là, que j'ai eue devant moi ce matin à la période des questions, là, ils sont tous responsables. Puis Christine Fréchette, elle était à la table des ministres lorsque ces investissements-là, sans recommandation de le faire, là, sans recommandation d'y aller de l'avant, là, elle était à la table des ministres lorsque ça a été présenté. Puis on lui a posé la question, avez-vous émis une opinion? Avez-vous dit que vous étiez contre? Aucune réponse. Silence radio. Je m'excuse, mais ils sont tous aussi coupables l'un que l'autre.
On sait très bien que le Parti libéral du Québec ne serait pas embarqué dans la filière batterie. Vous nous l'avez dit à plusieurs reprises sur nos ondes depuis 3 ans, avec le fait que le Parti libéral du Québec pourrait former le prochain gouvernement. On fait quoi avec la filière batterie? On fait quoi avec nos entreprises? C'est quoi le plan de match?
La réalité, là, c'est qu'il y a eu des experts, hein? Des experts qui se sont prononcés, qui ont dit que dans certains des dossiers, il ne fallait pas aller de l'avant. Malheureusement, la CAQ n'a pas voulu écouter ses propres experts. Ça, là, on parle de la filière batterie dans son ensemble aujourd'hui. Il y a un mois, on parlait de Nemaska Lithium. Je veux dire, le point de dénominateur commun dans tout ça, c'est que la CAQ n'a pas voulu, puis c'était une décision politique de vouloir y aller de l'avant. Alors, nous, on va se baser sur la science. Nous, on va se baser sur des faits. Nous, on va écouter les experts. On va prendre des risques, si on en a, on va faire, qui vont être basés sur des recommandations d'investissement. Malheureusement, le gouvernement de la coalition Avenir Québec n'a pas fait ça. Est-ce que la filière batterie, aujourd'hui, est dans un piètre état? Je pense que même si Trump avait pas été là, OK, on aurait eu des mauvais résultats parce que la CAQ a ultra mal géré la filière batterie. Puis je vais vous donner un exemple, si vous me permettez. La CAQ a décidé d'être partenaire avec des business qui n'avaient pas la capacité de payer. Non seulement il n'y avait pas la capacité de payer, la CAQ a décidé d'y aller de l'avant et d'investir leur moitié, leur responsabilité dans l'investissement. La CAQ a décidé de payer tout de suite avec des fonds publics, avec des partenaires quasi insolvables. Je veux dire, ça s'invente pas, là, ça. Là. Ça, c'est des décisions qui ont été prises sur un coin de table, puis ça a été décidé par le Conseil du ministre. Puis je le répète, Christine Fréchette était au Conseil des ministres lorsque ces décisions-là ont été prises. Elle est aussi responsable que toute la gang.
Monsieur Beauchemin, quand on va faire le calcul officiel à la fin du mandat, parce que là, on parle de la filière batterie, évidemment, aujourd'hui, mais tu sais, je pense au fiasco Saclic aussi. Puis ouais. Est-ce qu'on fait face au gouvernement, au pouvoir qui a le plus garoché d'argent par les fenêtres de l'histoire du Québec?
De l'histoire du Québec. C'est un gouvernement qui a gamblé avec l'argent des Québécois et c'est des dizaines de milliards de dollars en gaspillage. Puis spécifiquement par rapport à des investissements, on parle de plusieurs centaines de millions, voire quelques milliards de dollars qui ont été gaspillés de fonds publics. Puis tantôt, je vous entendais parler de la liste des investissements, puis je pense que c'était votre collègue qui en parlait tout à l'heure. Je lis le rapport du VG devant moi. Là. On parle d'un total de 2,2 milliards de dollars qui ont été investigués, là, si on va dire, par la vérificatrice générale. Il y a 761 millions en pure perte. Il y a aussi un 90 millions de dollars, OK, qui est dans des projets qui ont été abandonnés Donc, on va l'ajouter. Là, c'est juste que les comptables n'ont peut-être pas donné le rapport encore, là, mais on parle de 850 millions de dollars de pure perte. Puis, il y a aussi eu 1,1 milliard de dollars dans le 2,2 que je vous ai donné, donc la moitié de ça, qui est directement relié à des explosions de coûts associés aux investissements qui, dois-je le rappeler, là, n'avaient pas reçu l'aval du comité d'investissement que la CAQ a décidé d'y aller de l'avant pareil. Fait que c'est une gang de gnochons du début à la fin. Je ne peux pas concevoir que ces gens-là ont eu le culot d'investir l'argent, les taxes, les impôts des Québécois durement gagnés, puis qu'on a quoi comme résultat de ça? On n'a rien, malheureusement.
Oui, donc c'est 1,1 milliard de dollars parce qu'en plus de ne pas faire l'analyse à savoir si ça va être rentable, on avait mal fait l'analyse aussi de combien ça allait coûter faire ces travaux-là. C'est ce que je comprends avec votre 1,1 milliard de dollars?
Exactement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait justement une approche planifiée, on n'a pas fait de suivi, on n'a pas pris en compte tous les risques qui étaient importants. La vérificatrice générale le dit, là, il y a eu des risques importants qui ont été non considérés. Ça ne s'invente pas. Là. C'est le vérificatrice générale qui le dit. Il y a tellement de matière à mettre ce gouvernement-là à la porte. C'est inconcevable. Puis moi, ce qui me choque le plus, là, c'est qu'il nous regarde là, en ce moment, ce matin. Là, la première ministre nous dit « Je n'étais pas responsable de ça. C'était pas mon administration. C'était l'ancien gouvernement. Je m'excuse. » Elle était présente à la table des ministres. Elle a entendu aussi les avis d'experts qui n'ont pas donné de recommandations d'investissement puis ont décidé d'y aller de l'avant. Ils sont tous aussi coupables l'un que l'autre.
Monsieur Beauchemin, je vais vous poser sûrement la question la plus difficile de cet entretien parce que vous n'aurez pas le droit de répondre « on ne fait pas attention au sondage », d'accord? Moins 5 % pour le PLQ dans le sondage diffusé dans la presse aujourd'hui. Ça vous envoie quoi comme message?
Ça nous envoie le message qu'on se doit de continuer à faire le travail de terrain pour s'assurer de rentrer en contact avec toute la population dans son ensemble. Puis moi, j'ai le privilège maintenant de pouvoir représenter la circonscription de Brome-Issiquoi, l'endroit où j'habite depuis 2004. Donc, pour moi, c'est un privilège de pouvoir être sur le terrain. Et j'ai donc hâte là, qu'à partir de samedi, on va être sur le terrain. Et justement, ça va être une poignée de main à la fois, un électeur à la fois, qu'on va être capable de pouvoir faire en sorte qu'on va gagner le 5 octobre prochain.
Donc, vous avez confiance qu'en étant sur le terrain avec un Charles Milliard, vous allez pouvoir remonter. Est-ce que vous avez des choses à clarifier, par exemple, la langue française? Ça reste brouillon pas mal au Parti libéral, ça.
On est en train de justement tout faire pour s'assurer que d'ici le 21 juin, on va pouvoir présenter notre plan de match. Puis vous allez voir, nous, ce qui est important là-dedans, là, ce qui est vraiment important dans tout ça, là, c'est que les Québécois, la culture québécoise, notre langue française qui est chère, qui est la nôtre, là, qui puisse être protégée puis vraiment bien soutenue. Puis ce n'est pas en bloquant l'accès aux Québécois de pouvoir être éduqués. Ce n'est pas en empêchant les minorités d'avoir des droits à eux. Ce n'est pas en faisant mal à d'autres qu'on va se faire relever. Au contraire, ce qu'on doit faire, c'est justement s'assurer qu'on mette en place tout ce qu'il faut pour faire rayonner notre culture. Ça, là, c'est un levier important, puis il n'y a rien de tout ça qui a été fait par la CAQ. Nous, on va travailler là-dessus. Puis c'est une approche, justement, de construction vers l'avenir. Alors, on va le faire en économie, on va le faire en culture, on va le faire en santé, on va le faire en éducation. Ça va être une poignée de main à la fois, et j'ai très hâte d'être sur le terrain pour pouvoir livrer la marchandise.
Vous parlez du terrain depuis quelques minutes, là, M. Beauchemin. Puis, tu sais, quand on parle d'économie, parce que c'est ça votre tasse de thé quand même, quand on parle d'économie sur le terrain, justement, ce qu'on entend, bien, c'est que les gens ont de la misère à arriver, que tout coûte de plus en plus cher, que c'est difficile de payer son loyer, d'être capable de faire l'épicerie. Si vous gagnez les élections, le Parti libéral, à l'automne prochain, c'est quoi la première décision économique qui va être prise par le Parti?
La première décision économique qu'on va faire, c'est de s'assurer justement qu'on fasse augmenter les revenus de tous. Puis ça, je vous le dis tout de suite, là, OK, on va avoir des mesures plus précises qu'on pourra annoncer en cours de route, mais il faut que tout le monde comprenne, OK, tout le monde doit comprendre la chose suivante. L'économie doit être au rendez-vous. Puis pour ce faire, il faut qu'on tasse le gouvernement qui empêche nos PME, le cœur de notre économie, d'avancer, puis de pouvoir gagner des parts de marché, de pouvoir faire des ventes, de pouvoir gagner à l'extérieur du Québec, pour faire en sorte que nos PME puissent grandir, trouver le prochain couche-tard, encourager le prochain bombardier. Ça, là, OK, c'est important parce qu'avec ça, va venir des meilleurs revenus. Avec ça, va venir des meilleurs salaires. Avec ça, va venir une augmentation du pouvoir d'achat. Puis les gens vont être capables de se payer plus facilement les paniers d'épicerie qu'aujourd'hui, on en arrache parce qu'on n'a jamais eu de vision de développement économique de la part du gouvernement de la Coalition Avenir Québec. Pour nous, priorité numéro un, c'est de s'assurer que l'économie est en croissance. Et nous, on va tout faire pour que ça arrive.
Mais là, donnez-moi un peu de chair autour de l'os. Je comprends que vous voulez vous garder des nouvelles, évidemment, parce qu'on est en campagne, là, où la campagne va partir là, officiellement pour vous. Mais mettons là, un exemple, c'est qui le prochain couche-tard? En avez-vous déjà un dans le giron, le Parti libéral, d'un potentiel prochain fleuron comme celui-là qu'on pourrait justement aider, qu'on pourrait backer, comme on dit en bon français libéral, pour aider économiquement à faire rayonner le Québec puis à permettre justement à l'économie de rouler davantage autant ici qu'à l'international?
Bien, je vais vous donner des indices. Okay? Il y a le secteur manufacturier qui est extrêmement important au Québec, qui, malheureusement, sous la CAQ, a perdu énormément de terrain. Puis on le voit là, tout partout à travers la planète. Les secteurs manufacturiers, autant aux États-Unis, puis on sait bien, là, Trump fait tout pour essayer de l'augmenter, qu'en Europe, okay, les gens font la défense de leur propre secteur manufacturier pour le faire augmenter. Bien, au Québec, la CAQ l'a abandonné. Fait que ça va être un secteur. Puis là-dedans, il y a plusieurs joueurs. Puis je peux juste penser à Marmène là, qui fait des pannes, des tours d'éoliennes, qu'on a décidé de pas mettre dans des processus d'achat de parcs de développement éolien. Parce que ça coûtait moins cher d'acheter chinois. Là. Je dis honnêtement, on se doit de vraiment avoir une politique Québec d'abord, puis ça va être essentiel. C'est quelque chose comme ça qu'on va le faire. Mais d'autres facteurs extrêmement importants pour faire qu'on va pouvoir avoir un prochain couche-tard, un prochain bombardier, il faut penser à l'innovation. Il y a plusieurs PME, là, des startups, il y en a effectivement, mais il y en a qui ont déjà un track record, qui sont capables de démontrer, qui sont capables de générer des revenus, qui sont innovants. Bien, ceux-là, puis je ne ferai pas leur publicité sur les ondes aujourd'hui, là, mais ceux-là, elles sont en ce moment là, en train d'être sur le bord de donner des champions et des championnes. On se doit de s'assurer que ceux-là puissent être aidés, que ce soit simplement par l'achat du gouvernement du Québec, de s'assurer qu'elles passent en premier. Là. On ne donnera pas une carte blanche pour qu'ils puissent nous charger 50 plus cher que le voisin, là. Mais on va s'assurer d'une affaire, c'est que minimalement, là, à prix égal, on va les choisir en premier. Puis ça, là, ça va être la politique Québec d'abord du gouvernement libéral.
Ça, c'est plus de chair autour de l'os.
C'est pas pire, hein?
Puis par start-up, je pense que vous vouliez dire entreprise en démarrage.
Oui, hein, c'est ça. Oui, parce que...
Je vous agace.
Non, mais c'est parce que, justement, là, on a conscience, vous êtes au Parti libéral, donc on vous aide avec la langue française. On vous agace.
Merci.
Monsieur Beauchemin, je vous laisse aller. Ça va être vote sur les boissons énergisantes. Allez voter pour ce projet de loi.
Ça marche. Bonne journée à tout le monde.
Merci, au revoir. Frédéric Beauchemin, porte-parole de l'opposition officielle en économie. Ça fait plusieurs fois qu'il nous parle sur nos ondes, autant le matin que le midi. C'est un gars qui est vraiment en contrôle là, de son dossier.
Oui, vraiment. Puis tu sais, c'est pour ça que je me suis permis de poser la question, parce que je l'ai déjà entendu en entrevue. Puis c'est le fun d'avoir la chance dans notre métier de s'entretenir avec des hommes, des femmes politiques. Puis je trouve ça le fun quand tu poses une deuxième question qui veut dire la première était floue,
ben oui.
Donne-moi un petit peu plus de détails, puis qui m'arrive, puis que finalement ils se commettent, puis qui nomme un Marmène, effectivement. Ben...